Alors, l'emplacement exactement de la Neshama dans le corps et le lien qu'elle a avec Dieu avant la vie, pendant la vie et après la vie.
Neshama, c'est un terme qu'on traduit en français, âme. Mais en fait, en hébreu, il y a cinq termes qui définissent la Neshama, parce qu'on a cinq Neshamas différentes. Ça veut dire que tout sur terre, même un caillou, contient cinq parties spirituelles, en plus du corps, qu'on appelle de bas en haut Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yachida. Pour dire vite, on appelle ça Narnachi. Narnachi, c'est la rachette acrostiche, première lettre de Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yachida. Les deux éléments supérieurs, comme Haya, Yachida, ils sont tellement hauts que d'habitude on ne les prend pas trop en considération. On parle d'habitude des trois Nefesh, Ruach, Neshama. Maintenant, comme j'ai dit, tu as la Nefesh d'un caillou, tu as la Nefesh d'un chien, tu as la Nefesh d'un être humain. Le Nefesh lui-même de l'être humain, ou du caillou, il est aussi composé de Nefesh, Ruach, Neshama. Ou si on prend les cinq parties, le Narnachi, il est composé de Narnachi. Et le Ruach aussi. Et la Neshama aussi. Donc, si tu veux, tu as une unité, on va dire, j'ai un être humain. Il a cinq parties en lui. Cinq niveaux d'âme. Le corps, c'est un morceau de steak, c'est rien du tout. Il a cinq niveaux d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Maintenant, le Nefesh, ainsi que le Ruach, ainsi que, donc chacune de ces unités, elle aussi, elle est divisée en cinq parties. Donc tu auras dans Nefesh, tu auras Nefesh du Nefesh, Ruach du Nefesh, Neshama du Nefesh, Haya du Nefesh, Yachida du Nefesh. Après tu auras Nefesh de Ruach, Ruach de Ruach, Neshama de Ruach, Haya de Ruach, etc. Donc chaque partie, elle aussi est subdivisée en cinq, et comme ça à l'infini. Donc, quand par exemple on dit que chaque anniversaire, on verra ultérieurement dans le cours, chaque anniversaire juif, d'accord, on reçoit un supplément d'âme. Alors c'est quoi? J'avais cinq âmes, je reçois une sixième? Non. C'était peut-être au niveau de ton rouar, ou ton nefesh, on ne sait pas, ou dans le nefesh du rouar du nefesh, tu reçois encore un supplément. On ne sait pas, c'est infini. C'est un petit supplément. On reçoit Shabbat, on reçoit une âme supplémentaire. On reçoit un nefesh rouar neshama le vendredi soir, et aussi nefesh rouar neshama le samedi matin, à certains moments. Non, on reçoit supplémentaire. Tu as la Neshama, tu as tes parties supplémentaires, tu as tes parties d'âme, d'accord, de Chol, et Shabbat, tu reçois un supplément. Alors, tu reçois le vendredi soir un supplément, et tu reçois un autre supplément supplémentaire, beaucoup plus grand, le samedi matin. Alors, quand on dit Boykala, on reçoit un effet supplémentaire du vendredi soir. Quand on dit Baruch Hashem Avorah, c'est pour ça qu'on le fait debout. Le seul Baruch Hu pour le soir Adim, on n'a pas se lever pour Baruch Hu. Baruch Hu, tu restes normal, tu dis Baruch Hashem, Baruch Hu, l'Alamed. Mais le vendredi soir, il faut se lever parce qu'on reçoit Ruach du Shabbat soir. Et quand tu dis à la fin de la quatrième bracha du Birkot Kachma, Ufros alen uskat shlomecha, Ufros, on se lève, et c'est marqué dans le Sidour, penser qu'on reçoit supplément de Neshama. Et si on ne pense pas, on ne reçoit pas. Il faut penser. Samedi matin, Shabbat matin, il est important d'aller au Mikvé. Vendredi après-midi, c'est évident. D'accord, vendredi après-midi, il faut aller au Mikvé pour recevoir, on reçoit ces suppléments. On se débarrasse aussi de la saleté, parce qu'on a des parties sales de Chol, d'accord, de profane. Ça, on se débarrasse de ça aussi pour recevoir les habits de Shabbat. Le Mikvé du samedi matin est plus, comme ça écrit le Ben Ishra, est plus important que le Mikvé du vendredi après-midi. Pourquoi? Parce que la différence de montée qu'il y a entre vendredi après-midi et vendredi soir, cette partie-là, elle est plus petite que la différence qu'il y a entre vendredi soir et samedi matin. Alors, on va au mikvé, froid pour les Sfaradim. Heureusement, aujourd'hui, c'est pas très très froid, c'est 25 degrés. D'accord? Il faut que quand tu mettes le doigt dedans, c'est pas chaud. Tiédas, ça va. Mais quand tu sens la chaleur, c'est déjà interdit. En cas de force majeure, pour les Sfaradim, si vraiment tu dois aller au mikvé, tu ne peux pas autrement, et il n'y a qu'un mikvé chaud, alors on peut autoriser. Mais vite aller et sortir sans profiter de la chaleur. Mais normalement, c'est interdit. Gros mikvé froid. Alors moi, dans mon quartier, le mikvé froid, ça va, il est à 25 degrés, c'est supportable par ce temps-là encore. Tu vas lentement, tu mets un pied, tombe un peu par-ci, un peu par-là, et hop, tu plonges. Mais vu que tu es le millième qui a plongé dans la baignoire ce matin, l'eau, elle est... elle a une drôle de couleur. Donc après, tu passes la douche froide. Alors tu prends la douche. Alors en été, l'eau de la douche froide, c'est la même température que le mikvé, c'est 25 degrés. Mais là, ça commence à se refroidir. Et glagla. Bon, voilà. La mer, oui, c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Alors au niveau de se sécher, on peut se sécher, mais on se... Tout ce qui est chevelu, d'accord, il ne faut pas presser comme ça, avec une serviette comme ça, délicatement. Pour ça, tu te sèches sans aucun problème. La mer, c'est déconseillé, il y a beaucoup de problèmes. Problème de porter des gouttes d'eau quand tu sors de la mer. Il y a problème de nager, tu n'as pas le droit de nager. Donc la mer, c'est assez déconseillé. Voilà, on a beau Rochem aujourd'hui, il y a des mikvé, c'est pas un problème. Donc c'est important d'aller au mikvé le samedi matin. Et après, prendre une douche. D'accord, problème. Ou elle est tôt, quand c'est encore un peu propre, l'eau. Alors, le samedi matin, on reçoit, Shabbat matin, on reçoit aussi ces trois parties, Nefesh, Ruach, Neshama, dans la prière. Mais de Shabbat matin, qui sont, quand on dit Nishmat Kol Chai, on dit ces trois mots, Nishmat Kol Chai, il faut penser, recevoir Nefesh supplémentaire de Shabbat matin. Quand on dit Hashem Sata Tiftach, au Fiyagit et la Techa, de avant la Hamida, de Shachrit, et si on a oublié de Moussaf, on reçoit le Rouar supplémentaire, il faut penser. Et quand on dit Aïe dans la Kdusha de Moussaf, Aïe, mais comme Kvodo la Ritzo, Aïe, pour ça que chez Sfaradim, ils font un long Aïe. Pourquoi? Pour la musique? Parce que les gens un peu branchés, ils pensent un tas de trucs importants. Aïe, ils ont des pages de Kabanot, d'accord, de pensée. Enfin, que Nefesh, Nishma, je ne connais pas moi les pensées de Aïe, mais Nishmat Kol Chai, c'est maintenant le Ben Ishraï. Mais je vous dis, ça prend 30 secondes. Nishmat Kol Chai, il faut penser que les trois premières lettres, Nun, Kol, Kaf et Chet, ça fait en valeur numérique 78. Valeur numérique de 3 fois 26, 3 fois le nom de Dieu. Après, il faut penser que Kol Chai, en valeur numérique, c'est 68. Valeur numérique de trois noms de Dieu, Eke, Abaya et Eke. Et pensez recevoir la Nefesh supplémentaire de Shabbat, qui en fait vient de la Tzilut à la Bria. Tout ça, il faut arriver quand tu es Nishmat, je n'ai jamais réussi à le dire encore une fois, Nishmat, il faut aussi que tu le mot, parce que tu laisses Nishmat pendant une minute, tu te finis Nishmat, c'est plus Nishmat, ça ne peut rien dire, il faut que ça ait un sens. Il faut être extrêmement rapide. Voilà, ça c'est pour... Donc, il y a beaucoup de choses à penser, ça, Ben Ishraï, d'accord. Il suffit... Au niveau simple, de penser, je reçois maintenant Nefesh supplémentaire de Shabbat, ça suffit. Donc pour dire qu'il y a des parties qu'on reçoit, alors c'est pas que tout à coup, tu n'avais pas de Nefesh, ou tac, tu as reçu une Nefesh. Tu as une Nefesh. Mais dans les parties qui sont des subdivisions, de subdivisions, de subdivisions, de subdivisions, tu as reçu une partie supplémentaire. Le Nefesh, tu as posé la question, où il se trouve? C'est marqué que le Nefesh se trouve dans le foie. C'est pour ça. Il n'est pas bien de manger le foie des animaux. D'après la mystique juive, c'est permis. Celui qui a besoin de faire, etc., c'est permis. Mais c'est bien celui qui peut éviter de manger du foie d'animaux. S'il a besoin de foie, alors c'est mieux de manger un foie de volaille que du foie de bétail. Le rouar se trouve dans le corps. Et la neshama, c'est quoi se trouve? C'est-à-dire, il y a une correspondance, il y a l'organe physique et les supports d'une charge spirituelle. Et la neshama se pose dans le cerveau. Parce que le matin, entre parenthèses, on profite pour donner quelques halakhot intelligentes, d'accord? L'essentiel de la mitzvah des tefillin, l'essentiel est de penser une certaine pensée, qui est que je porte les tefillin au bras et à la tête, dans lequel il y a les quatre textes qui racontent deux choses, qui racontent la sortie d'Égypte et l'unicité de Dieu. C'est la sortie d'Égypte qui nous montre quoi? Que Dieu a le pouvoir sur tous les mondes supérieurs, sur tous les mondes inférieurs, plein pouvoir, et tous sont subordonnés à lui. Et je pense que je parle de tefillin de tête ici, par rapport au cerveau dans lequel demeure la neshama. Et je pense que je subordonne ma neshama, comme toutes les forces supérieures et inférieures sont subordonnées à Dieu, je subordonne ma neshama à Dieu. Et je parle de tefillin de bras face au corps, parce que dans le corps se trouvent toutes les envies, et je pense minimiser mes plaisirs, messieurs. C'est extrêmement non commercial. Et me rappeler de Dieu. Rappeler de Dieu et minimiser les plaisirs terrestres. D'accord ? Les kiffs spirituels, vas-y, éclate-toi, mais tout ce qui est terrestre, il faut minimiser. Donc la neshama se trouve dans le cerveau. Maintenant, ça, c'est tout le monde va naître avec, Baruch HaShem, normalement, un foie, un cœur et un cerveau. S'il manque un de ces trois éléments, c'est un peu dur à survivre. Mais, dans, je dis, t'as un nefesh, t'as un certain nefesh, t'as un autre nefesh, t'as plus, c'est extrêmement... il y a une arborescence, c'est beaucoup de subdivisions. Les grandes parties de Ruach Neshama, on est, parce qu'on est sans ces parties-là. On ne naît qu'avec le nefesh. Et là aussi, il y a des parties différentes. C'est-à-dire qu'à la conception déjà, il y a une petite partie qui rentre dans l'ovule et spermatozoïde. Ensuite, il y a, à l'âge de 40 jours de la gestation, il y a une autre partie qui rentre. Après, à la naissance. Après, à la Brit Mila. Et après, ça commence, à, chaque anniversaire, on reçoit un peu plus. Âge de 13 ans, bang, on reçoit un grand cadeau. La nuit des 13 ans, juif de la bar mitzvah, on reçoit Ruach. Pour ça qu'on dit que le Yetzer Hara, il vient avant le Yetzer Hatov, 13 ans. 13 ans avant le Yetzer Hatov. Parce que Nefesh, ce sont les fonctions, en fait, animales. Instinct de survie, instinct de nutrition, instinct de reproduction, instinct de combativité, instinct de pouvoir, instinct de colère, de jalousie, toutes ces pulsions que tu as qui viennent de... Ça, c'est Nefesh. Ruach, c'est la parole. Alors, c'est pas que quelqu'un ne parle pas jusqu'à l'âge de 13 ans, il parle, mais c'est différent Ruach. D'accord ? Ruach, ça correspond à la parole, c'est déjà... Ruach, c'est l'être humain. Ruach, l'essentiel de l'être humain, c'est le Ruach. Je vais expliquer un peu plus tard pourquoi. Et Neshama, ce qu'on appelle, c'est le domaine de la pensée. À l'âge de 13 ans, on reçoit un grand supplément de Ruach. Et là, on commence tellement ce supplément de Ruach, de spiritualité, il est grand, que c'est l'âge où on commence lentement à se poser des questions. Alors, ça commence, le Ruach commence à rentrer, et ça va en grandissant sans cesse jusqu'à l'âge de 20 ans. Ça continue aussi après. Ça commence à l'âge de 13 ans. C'est entre l'âge de 13 ans et de 20 ans qu'on commence à poser des questions existentielles. Parce qu'avant, hein, c'est pas possible. Ça n'existe pas quelqu'un de moins de 13 ans qui se pose des questions existentielles, qui est torturé pour le pourquoi de la vie. C'est pas possible. Parce qu'il est que nefesh. Nefesh, je vis. D'accord, j'ai des besoins, et voilà. Et je me crée maintenant une personnalité par rapport au monde concret, au monde physique. Je n'ai pas encore la question métaphysique. Ça vient entre 13 et 20 ans. Ruach. L'âge de 20 ans, la nuit des 20 ans, on reçoit Neshama. Il est bien de jeûner chaque anniversaire, parce que plus tu es en état de sainteté, plus tu reçois un plus grand supplément. Donc en général, Nefesh Ruach Neshama, ça correspond à acte Nefesh Ruach, parole Neshama, pensée. Chaque mitzvah que je fais, il y a dedans Nefesh Ruach Neshama. Il y a l'acte que je fais. Il y a la parole, ou la bracha que je fais, ou un lechem ichud que je fais avant, ou je cite le verset que je, la mitzvah que je vais faire, et la pensée adéquate pour que tout soit complet. Auparavant, j'ai dit que le ruach, c'est l'être humain en lui-même. Pourquoi ? Pourquoi pas nefesh ? Pourquoi pas neshama ? Comme j'expliquais souvent ici, le but de l'opération, pourquoi Dieu nous amène sur terre ? Pour que nous puissions nous réaliser en tant qu'être intrinsèque, pas moi-même, j'existe. Je décide. Pour cela, il faut que j'ai un libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'être. Je suis programmé, je n'existe pas. Donc la partie qui va décider, c'est elle qui est, en fait. C'est l'être humain, c'est lui. Pour pouvoir décider, il faut me donner un libre arbitre. Entre quoi ? Entre deux pulsions. La pulsion du nefesh, du corps. La pulsion de la neshama, qui est complètement divine. La neshama, elle s'exprime par un désir de sens, s'exprime par un désir de faire un acte de bonté altruiste à l'autre, pour l'autre, par bonté. S'exprime, ça se peut même déjà à des niveaux plus bas même dans le rouar, mais en tout cas s'exprime par exemple par la soif de justice. Ça, t'as pas des animaux qui sont sensibles à cela. L'animal n'est pas sensible au sens de la vie, ni à la justice, ni à l'acte altruiste. Ça, c'est Neshama. Donc, tout le monde, je dis, dès qu'on est, on a des petites parties de Neshama, mais le grand vient dès l'âge de 20 ans. Après, ça va en grandissant. Ces deux parties, le Nefesh et la Neshama, c'est pas moi, en fait. C'est des choses que j'ai reçues. Comme j'ai reçu un corps, c'est mon corps, tous les matins, je me lève, j'ai le même visage, d'accord, plus ou moins. J'ai reçu aussi, avec ce corps, un Nefesh. C'est des pulsions, des goûts, des couleurs, des qualités, des défauts de caractère. Ça, c'est au niveau animal, le corps. Je reçois aussi de Dieu une Neshama, ça veut dire maintenant un faisceau d'éclairage divin. Tu as des gens qui ont plus ou moins une sensibilité à la divinité, plus ou moins une sensibilité au sens de la vie. Tu as des gens qui disent « ça ne m'intéresse pas du tout ». Ça ne les intéresse pas, ils sont très loin de ça, parce qu'au niveau de leur potentialité, ou bien ils se sont beaucoup investis dans le Nefesh, et ils ont complètement ratatiné, ils ont complètement atrophié leur Neshama, et ils avaient quand même un grand potentiel, ou non, ils sont avec un petit potentiel. D'accord, t'as le type qui est... Voilà. Ça dépasse pas beaucoup plus. Râlez pas, c'est comme ça qu'il est. Ok, ça va. C'est pas dire qu'il peut pas y arriver, il peut y arriver. Lui, il a un petit potentiel, il sera jugé pour ce petit potentiel. Tu aurais pu quand même arriver, dans tes conditions de petit potentiel, quand même à... Il n'existe pas d'être humain qui ne se pose pas une fois dans sa vie une question de sens. C'est quoi le monde? Pourquoi je suis là? Chaque être humain, aussi primitif qu'il soit, il se la pose. Dès lors, il doit être honnête. L'être humain se... Tu seras jugé pour ton honnêteté. Est-ce que lorsque tu as une question, tu n'avais pas la réponse, est-ce que tu es resté honnête et tu as continué à te poser la question, ou tu as dit, ça ne m'intéresse pas, mieux vaut profiter et c'est tout. Mais la question, c'est une bonne question. Tu te l'es posée, tu n'as pas reçu de réponse. Comment tu continues à vivre sans savoir pourquoi tu vis? Chacun comprend un beau jour qu'il n'est pas venu sur Terre pour faire de l'argent, et avoir une belle bagnole, des belles vilottes, une belle femme, des belles femmes, et différents beaux enfants de différentes femmes, de divorcés et remariés, redivorcés. D'accord? Ça, je dis en exagérant. Tout le monde comprend qui est. Ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a un sens à l'univers, il y a un Dieu, il y a une chama, je pense une chama si grande qui est sensible à la vérité pour faire du business et c'est tout. Donc cette question-là, tu te la poses une fois dans ta vie. Alors oui, mais. Oui, mais. D'accord? C'est toujours la réponse du etc. Mais c'est dur, mais qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que je vais... Bon, tous les mais possibles imaginables qui sont notre lot qu'on a reçu sur Terre. Nous, on a reçu maintenant des mecs qui proviennent du Nefesh, ça veut dire, oui mais tu peux pas, j'ai des besoins, je peux pas, etc. Et un écart de Neshama, ces deux j'ai reçus, malgré moi, ça ce sont des potentiels, d'accord, ce sont des pulsions. Attends, moi qu'est-ce que je fais? Moi je suis rouar, je suis au milieu des deux. Et mon but sur Terre c'est de choisir, est-ce que je suis maintenant la pulsion du Nefesh, ou non, lentement, on n'est pas des crêpes qu'on peut du jour au lendemain ratatiner le Nefesh et être qu'un ange Neshama. Mais est-ce que maintenant je prends une direction très claire que... La Neshama, c'est l'éclairage prépondérant. Je respecte qu'il y a un effet que je dois respecter, mais la direction, c'est par là. C'est moi qui vais mener la barque. Moi, ça veut dire le rouar qui entend un message divin de la Neshama et qui dit au Nefesh qui est l'animal, écoute, c'est par là qu'on va. Nefesh, il ne veut pas. Le Nefesh. Ça paraissait quand même des années comme ça de balancer devant une chaise, devant un texte, il faut être productif, je sais pas, par exemple. Ou ta voisine te fait un clin d'œil, Baltachrit, c'est dommage de ne pas en profiter, d'accord, parce que j'en sais. Chacun il aura, d'après son Nefesh, d'autres pulsions, d'accord, chacun. Tout de suite, un Neshama, elle vient te dire, attention, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est correct? Avant sur Terre, avant de venir sur Terre, le Nefesh Ruach Neshama existe, mais ce sont des potentiels non réalisés. Sur Terre, ils viennent et ils se réalisent. Et après leur passage sur Terre, eh ben, ils profitent de ce qu'ils ont fait. Ou zéro. Ou complètement réalisé. Et, paraît-il, donc, dans l'Olam Haba, ils vont chacun à un autre endroit. On n'est plus liés. Le Nefesh, il va dans le Nefesh, ou il va à chacun. Il fait autre chose. Et la résurrection des morts, là, il y a une réunion de tout. Oui. Il est certain qu'il y a un rapport entre les mitzvot, entre notre constitution physique et notre réalité métaphysique. Et si quelqu'un touche dans la réalité métaphysique, il y a un manque de lumière. Rabbi Hamita, la Kabbalah explique dans Sharei Kedusha qu'il y a 613 organes ou veines physiques auxquels correspondent 613 organes spirituels, auxquels correspondent 613 lumières divines, qui sont les mitzvot. À mesure où on fait les mitzvot, alors la lumière vient dans les organes spirituels, et l'organe spirituel amène un flux de vie, donc de santé, à l'organe matériel. Ça, c'est clair. Maintenant, avec précision, quoi, comment, qui, je ne sais pas si quelqu'un le sait précisément sur Terre aujourd'hui, il n'y a pas de livre qui l'explique. Il y a des livres qui vont dans ce sens, mais c'est des livres extrêmement ardus, et je ne sais pas dans quelle mesure on arrive à une... Bon, il y a quelques personnes sur Terre qui s'occupent un peu de voir cela, mais qui, quoi, comment, voilà, c'est pas très clair. Par contre, il y a un rapport, comme j'ai commencé à dire auparavant, de même je dis qu'il était interdit, qu'il n'était pas bien d'après mais c'est que de manger le foie des animaux, idem pour le cœur, parce que le roi des animaux est là-bas, et idem la cervelle, d'accord? Tu manges la cervelle d'un bœuf, bah t'auras un esprit de bœuf. Hein? Oui, c'est pas interdit, encore une fois, c'est pas interdit. Moi j'en ai mangé, et voilà, c'est pas la fin des haricots. Mais c'est Kabbalah, c'est-à-dire c'est déconseillé. Qu'est-ce qu'on conseille de manger? Du pain le matin. Les menus de la yeshiva. Bien faire la bracha. Parce qu'on ne fait pas bien la bracha, alors dans chaque aliment il y a des parties négatives et positives, charges négatives. Et quand on fait la bracha, on enlève une grande partie des charges négatives. Et sinon, elles nous sautent dessus. Ensuite, quand on mange durant le repas, il faut dire des paroles de Torah. Sinon, c'est une partie de l'énergie qu'il y a dans l'animal, dans l'aliment qui part au côté négatif. C'est marqué que celui qui ne dit pas des paroles de Torah sur sa table, c'est comme s'il a mangé Zivrei Metim. Zivrei Metim, c'est des sacrifices de mort. Ça veut dire quoi, les sacrifices de mort? Alors, Chazal explique, ce sont des sacrifices, en fait, à l'idolâtre, des sacrifices idolâtres, aux idoles. Où est le rapport? Les idoles, côté négatif, c'est la mort. Et quand toi, maintenant, tu fais, c'est quoi sacrifice? Sacrifice, c'est le mot korban en hébreu. Korban signifie rapprocher. Tu rapproches l'animal, à l'époque on avait le sacrifice, c'est l'animal contenait des étincelles de sainteté qu'on rapprochait de leur source de Dieu. Et c'est un très grand tikkun, une très grande réparation dans le monde qui amène beaucoup de lumière. Là, quand tu manges, tu fais la même opération. Mais si tu ne dis pas les paroles de Torah sur la table qui est notre autel actuel, alors toutes ces étincelles, au lieu de partir vers la Kedusha de la sainteté, elles partent dans la mort. Donc tu donnes de la vie à la mort. Tous les repas. N'importe quelle. Une Mishnah, un verset Teilim. Alors, si quelqu'un qui mange seul, oui, bien sûr. Il lit une Mishnah. Il dit un Teilim. Misement David, Hachem l'Ori de l'Arsar, ça c'est bien de le dire, ce misement Teilim. Ou au moins, et ça c'est bien de prendre l'habitude, quand tu as oublié, il y a au moins un truc. Quand tu vas faire Niklat Adaim, il faut se laver les mains avant de faire Brakat Amazon, comme vous le savez, j'espère, vous le faites, il faut se laver les mains. Pas toutes les mains comme ça. Maïm Achronim, les mains, c'est l'ablution des mains rituelles de fin de repas, où on se lave les mains, d'après le sens simple, les deux premières phalanges, d'après la mystique juive, les trois premières phalanges, donc tout cela. Là, et là, avec le minimum d'eau possible, mais bien les laver, comme ça, tac, tac, avec un clis, il faut se laver avec un... Et c'est bien de dire auparavant, Maïm Acharonim Chova. L'ablution des mains en fin de repas est obligatoire. Il y a des notions cabalistiques, obligatoires, ça veut dire que ça vient du côté négatif, d'accord? Cette eau-là, elle va au côté négatif. On donne un petit cadeau comme ça au citrar. C'est comme quand on veut faire passer un troupeau dans un fleuve dans lequel il y a des piranhas. Qu'est-ce qu'on fait? On jette une bête et après on passe. D'accord ? La même chose. On veut maintenant, on mange, on fait manger toutes les étincelles de sainteté vers Dieu. Le côté négatif, il dit, et moi ? Alors on donne un peu d'eau. Cette eau, elle est impure. Elle est impure. Alors c'est bien de dire, Malim Achronim Chova. Malim Achronim Chova, le Ben Israël donne aussi des rachetés vols. D'accord, si je l'ai pensé à voir quand on dit cela, mais c'est une parole de Torah. C'est une halakha. L'ablution des mains rituelles à la fin du repas est obligatoire. Donc tu as dit une halakha. Donc comme ça, c'est bien de prendre l'habitude de dire cela. Comme ça, au moins, tu es certain que tu n'as pas fait un repas sans dire des paroles de Torah. Que je voulais dire, quelque chose d'important aussi, le Zimoun. Vous, ici, la Yeshiva, c'est dommage, faites Zimoun, c'est pour faire Zimoun avec le nom de Dieu, vous êtes 10. Le Zimoun, ici, la Yeshiva, par la Ben Sion Abashaoul, on fait Zimoun que si on a 10, on ne peut pas 2 tables. Il faut, ici, la Yeshiva, c'est comme un restaurant, d'accord ? On fait Zimoun que si on a décidé qu'on mangeait ensemble. Donc, il faut dire avant le repas, ou pendant le repas encore, tant que vous êtes en train de manger, dire, écoute, nous, on décide qu'on mange ensemble. Si vous pouvez faire 10 personnes ensemble, comme ça, un fait le zimoun avec le nom de Dieu, plus tu fais un, si tu manges sans zimoun, tu as une grande accusation du côté négatif est très présent et il n'est pas content. Quand tu fais zimoun, tu l'envoies balader. Si tu fais zimoun avec le nom de Dieu, tu l'envoies balader à perpète les oies. D'accord ? C'est très bien. Donc si on peut arriver à faire zimoun avec le nom de Dieu, c'est très très bien. Il faut rechercher à le faire. Et aussi, c'est pas compliqué. Moi, à la maison, j'ai ma femme et 7 filles, donc je suis un peu embêté. Mais vous, allez chez toute une bande de garçons, alors profitez-en. Et Shabbat, faire sur le verre de vin. Normalement, enfin, tous les repas où il y a 3 personnes ont fait Zimoun, sur un verre de vin. Mais c'est très dur à faire. Bon, moi, Shabbat, c'est quelque chose de très très grand, le verre de vin. Très très grand.
Celui qui fait sur le vin, il en quitte tout.
Oui, c'est bien de boire un peu de cela. Il faut lire, c'est... Siman Kouf Pe Bet Kouf Pe Gimel, les lois concernant le verre de vin, il y a beaucoup de lois.
Vendredi soir, on reçoit une partie des chamans avec un de ça.
Nefesh. Boykala, boykala, on se prosterne. On dit à voix basse, boykala, Shabbat, Malketa, pour qu'on dit à voix basse, que le nefesh qu'on reçoit, il est invisible. Donc c'est quelque chose qui est secret, on lit en chuchotant.
Il me semble que l'état de Dieu était proposé il y a 300 ans, c'est ça ?
500 ans, par Rav Al-Kabetz.
Combien vous avez avant ?
Ils recevaient sur le Shabbat. Comment on fait aujourd'hui ? En France, ils ont la coutume marocaine. Les Marocains ont conquis la France, Baruch HaShem ou pas Baruch HaShem, chacun d'après. Voilà. Je ne rentre pas dans le débat aigu. Je suis libanais, je n'ai rien à faire, tunisien, marocain, algérien. Je suis hors du coup. Et donc ils font comme ils n'aiment pas qu'on leur dise ça, mais ils font comme les Ashkenazim, les Marocains. D'accord ? Donc ils font tout l'été, et le Shabbat est rentré depuis très longtemps. Or, il y a une mitzvah de recevoir Shabbat avant le coucher du soleil. Donc c'est fait Shabbat. Il faut aussi mais chol al kodesh. Ça veut dire ça signifie rajouter du temps de sainteté dans le temps qui est profane. Que ça, tu reçois Shabbat plus tôt. Même une seconde, tu as fait la mitzvah. Mais c'est important de le faire. Or, si tu considères que tu reçois Shabbat que lorsque tu dis l'Echadodi, lorsque tu fais Boykala, Boykala, ça fait déjà un quart d'heure que le soleil est couché, bah t'as raté. Donc c'est bien de... Quand tu arrives à la synagogue, tu vois que dans quelques minutes c'est le coucher du soleil, tu te retrouves, tu fais Boykala, Boykala, Shabbat, Boykala, tu fais comme ça, terminé. Après tu fais... T'as reçu en cela Shabbat. Alors, eux aussi à l'époque, ils reçoivent le Shabbat, en disant, je reçois sur moi le Shabbat. Ils faisaient ça, ça va, terminé. Le fait de recevoir le Shabbat, c'est à ce moment-là que tu reçois le Nefesh supplémentaire. Dans l'Ashkenazim, il y a deux mondes. Le monde chassidi, il a adopté tout ce qui est Kabbalah. Donc, ils ont tout ça. C'est d'où on appelle Sfard. Les Ashkenazim, il y a deux sortes d'Ashkenazim. Il y a les chassidim. Tu prends un sidour, n'importe quel sidour Ashkenaz, tu auras deux sortes de sidour. Il y en a, c'est marqué Ashkenaz, c'est marqué Sfard. Sfard, c'est pas Sfaradi. Sfard, c'est comme nous. C'est les coutumes de Rabbeinu Ohari, c'est d'après la mystique juive. La chassidoute, elle s'est branchée beaucoup à tout ce qui est mystique juive. Le monde Ashkenaz, non, il est resté très... Il y a mystique, mais c'est caché, c'est très... C'est, ils vont... Voilà. Donc, il n'y a aucun problème. Eux, comment ils font ? Je ne sais pas comment ils font. Ils font comme faisaient, nous, avant qu'ils aient Boïkala. Ils faisaient, quand ils reçoivent Shabbat, ils ont ensuite terminé. Mais tu leur dis que maintenant, Nefesh Warthni Shabbat supplémentaire, ils te regardent, c'est pas dans leur... Dans le monde lituanien, hein, tous ces trucs dont je vous parle, c'est des choses qu'ils n'aiment pas beaucoup. Tout ce qui est mystique comme ça, ils n'aiment pas. Non. D'habitude, tu en as des... Comme tu as des sfaradim qui sont lituaniens dans leur âme, et comme des lituaniens qui sont sfaradim dans leur âme, mais d'habitude, quand tu parles à un public sfarad de choses comme je suis en train de vous parler, il est hyper excité. Il écoute, Nefesh, Ruach, Neshama, tout ça, ça les chauffe. Quand tu vois un monde ashkenaz, tu reparles de ça, il dit, ça frise le tralade folklorique. Voilà, chacun avec ses sensibilités, on respecte tout le monde, Baruch Hashem. Oui, si quelqu'un, il a complètement réalisé son potentiel sur Terre. Ouais, tu sais pas où il est, tu sais pas, mais bon. Non, c'est pas toi qui décides. Il y a le grand gestionnaire là-haut qui s'occupe de tout, t'en fais pas. Quelqu'un, il avait un potentiel et il a réalisé. Alors, mais il a encore du temps à vivre. Alors, on lui donne maintenant une neshama supplémentaire d'un tzaddik. Un nouveau potentiel. Et si ça aussi, il arrive à le réaliser, il reçoit encore d'un plus haut sadique, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Ce qui est marqué, que chaque être humain peut arriver jusqu'au niveau de Moshe Rabbeinu. Comment ? Moi, Moshe ? Toi, pas Moshe. Toi, jamais Moshe. Qui es-tu, espèce de nul ? Mais si tu bosses beaucoup, on te donnera une neshama de Moshe. Donc, quelque part, t'es toi et Moshe, les deux ensemble. Oui, bien sûr. Tu remarques les grands de la génération. Ce qu'ils ont réussi à faire en Torah, c'est inhumain. Moi, je ne sais pas comment c'est. Inhumain. C'est même un bouquin qu'ils écrivent, c'est inhumain. Tous les bouquins qu'ils ont écrits, c'est inimaginable. Inimaginable. Comment ils font une chose pareille ? C'est certain qu'il y a des neshamot très hautes, très grandes. Baba Meir, il n'a pas été très très connu. Il se cachait beaucoup. Alors, Ben Sir Abachoul était un très grand ami de Baba Meir. Et il m'a dit, Ben Sir Abachoul, il connaissait toute la Torah. Il connaît toute la Torah, ça veut dire. Où que tu ailles, tac, 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 c'est des centaines de milliers de livres. C'est ça que ça veut dire, c'est inimaginable. C'est pas moi qui dis que j'ai vu quelqu'un connaître toute la Torah, parce que nous, je suis un nul. Rabbi Ben Sir qui connaissait toute la Torah lui aussi, d'accord ? Mais il témoigne sur un autre qui connaît encore plus, qui connaît toute la Torah. C'est extraordinaire, extraordinaire. Rav Obadiah Yosef, tu lui donnes une longue vie. Quand le Rav Raphaël Baruch Toledano, qui était le grand rabbin au Maroc, est venu en Israël, à Jérusalem. Le Rav Ben Sion et le Rav Odeh Yosef, qui étaient jeunes à l'époque, il y avait 25, 26 ans les deux, sont allés chez lui à la maison pour dire bonjour, le recevoir. Il reçoit, qui vous êtes ? Ben Sion Abba Shaul, Obadiah Yosef. Obadiah Yosef, quel Obadiah Yosef ? Oui, celui qui il avait déjà édité, je crois, deux tomes de son livre Yabia Omer, des responsa. Yabbi Omer, oui. À moi, t'as pas honte de venir me mentir chez moi à la maison, disparaît d'ici. Pour écrire un livre comme celui Yabbi Omer, il faut avoir au moins 50 ans. Et toi, un petit jeune comme toi qui écrit un bouquin pareil, la somme de livres qui est mentionnée là-dedans, des centaines de livres, comment il a eu le temps de les lire ? Où ? Quoi ? Quand ? Comment ? C'est pas qu'il faut se rappeler, et après faire des pile-poulets, mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Aujourd'hui, 60 ans de vie. Et non. Et ça, c'est les petits, parce que tous les grands qu'on a aujourd'hui, les plus grands, c'est des minuscules de minuscules par rapport aux grands d'antan. Comment mieux se concentrer ? C'est l'histoire d'amour. Quand tu aimes la chose, quand elle te passionne, tu as reçu maintenant ton compte en banque, les millions que tu as. Tu n'as pas problème de concentration. Ça marche bien. Ou que tu es en train de faire maintenant, je sais pas, tu es en train d'étudier pour ton master de médecine et tu as une grande motivation d'être médecin. Tu n'as pas trop bon de concentration. D'habitude, quand tu es passionné par ce que tu fais, c'est une histoire d'amour. Alors, on va dire, Yosef, c'est un des grands de la génération. Il y a un des, on finira avec cette histoire-là, c'est un des autres grandes générations, c'est le Rav, peut-être aujourd'hui le plus grand rabbin ashkenaz, c'est le Rav Eliashiv. Qui a 90 ans et quelques, plus grand, qui aujourd'hui ne quitte pas sa maison. Si on fait faire une Brit Mila, c'est à 50 mètres de chez lui, très très peu. Et lui, il quitte très très. Et il y a quelques années, il a décidé d'aller. Le Rav Odeh Yosef était malade, il s'était cassé le pied. Et le Rav Eliashiv a décidé d'aller faire un bikur cholim, d'aller visiter le Rav Odeh Yosef. C'est très rare, jamais il va voir personne. Il a dit, pour ce cas-là, j'y vais. Pourquoi ? Comment le Rav Odeh Yosef s'est cassé la jambe ? Il cherchait un livre. Il est monté, il a une bibliothèque énorme. Alors quand il a déménagé, C'était très dur de le convaincre, parce qu'il a dit, si jamais il bouge maintenant les étagères, je ne saurais plus où sont mes livres. Il a des dizaines de milliers de livres. Il se souvient chacun où est sa place. Puis maintenant, tu mélanges tout. C'est impossible. Donc, il fallait faire attention que chaque livre, il est exactement à sa place, à côté de celui qui est à gauche, à droite. C'est un moyen, même aux techniques, de souvenir. Même au niveau des psakim. Il sait que maintenant, sur ce sujet-là, on parle dans cette région. Et c'est bon. Alors, il monte sur son échelle vite, il prend le livre. C'est bon. Il va et il court. En oubliant de descendre de l'échelle. Il s'est cassé la jambe. Alors, là, je lui ai dit, pour un amour de la Torah pareil, je vais faire un bikur cholim. Même loin de chez moi. Baruch Adonai, Raman Gamer.